On est en pleine semaine nationale de la santé mentale. Il y a beaucoup de travail à faire pour briser les tabous entourant les maladies mentales et un des tabous persistants est celui du suicide,
Oui.
particulièrement chez les enfants et les adolescents. Sylvie Lauzon, directrice de la Fondation Les Petits Trésors, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous
Bien,
aujourd'hui.
Ça me fait très plaisir.
Donc, cette semaine, c'est là-dessus qu'on va se pencher, sur l'importance de briser ce tabou entourant le suicide chez les enfants, chez les adolescents. Chaque année, il y a 45 jeunes Québécois de 19 ans et moins qui mettent fin à leur jour. Et évidemment, un plus grand nombre qui font une tentative de suicide. Il faut travailler pour régler ça. C'est un problème.
En fait, oui, c'est un problème majeur. On peut se questionner pourquoi on n'en parle pas, pourquoi dans cette semaine nationale de la santé mentale qui est en cours, on n'en parle pas tant que ça. C'est certain que là, il y a eu un incident qui s'est produit la semaine dernière, donc on a parlé beaucoup de cette adolescente de 14 ans. Je pense qu'il faut... Il y a des points qui nous ancrent dans cette réalité, mais il faut en parler 12 mois par année. Et ce qu'on va tenter de faire, en fait, à la Fondation, on a décidé d'organiser une journée prévention suicide chez les enfants. Ça se passe vendredi matin. Vous aurez tous les détails en allant sur petittrésor.ca et même en venant sur le site ici de la radio. En fait, le plus difficile là-dedans, oui, il y a le tabou, mais quand on regarde ça de façon précise, est-ce qu'on comprend? C'est difficile d'imaginer. C'est déjà difficile d'imaginer qu'un adulte puisse s'enlever la vie. Quand un enfant de 5, parce que ça arrive parfois à 5 ans, quand un enfant de 9 ans, 10 ans, 14 ans pose un geste comme celui-là, ça nous remet en question. En fait, même si c'est pas ton enfant, tu te dis, moi, en tant que parent, est-ce que je pose tous les gestes qu'il faut pour que cette situation-là ne se produise pas? C'est qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe. En fait, ça va être beaucoup autour de comprendre ce que c'est que la mort, ce que ça représente la mort pour un enfant de 5 ans. C'est pas la même chose que pour un enfant de 10 ans ni que pour un ado de 15 ans. Donc, on va essayer de comprendre comment l'idée de la mort se précise et devient quelque chose dans la tête d'un enfant. Et ça, c'est tellement drôle parce que j'ai eu à interviewer Marc-Antoine qui va témoigner à notre journée. Il a maintenant 15 ans et il me parlait... En fait, il n'a jamais fait de tentative de suicide, mais il me le disait, il me racontait qu'à 9 ans, parce que en raison d'une situation familiale difficile, c'est souvent l'un des facteurs de risque, il avait envie d'aller ailleurs. Et pour cet enfant de 9 ans-là, aller ailleurs, ça voulait dire s'envoler. Et lui, comme il allait souvent patiner, il s'imaginait monter sur l'édifice en haut duquel il patinait et de sauter dans le vide. Et donc, dans le fond, être ailleurs, pour lui, ça n'a pas plus de conséquences que ça, mais s'il avait posé le geste, il se serait enlevé la vie. C'est souvent ça qu'il faut essayer de comprendre.
Beaucoup plus de conséquences à son geste.
C'est en plein
ça. Beaucoup de répercussions, en fait, sur les familles. Justement, c'est ce qui peut causer ces idées suicidaires, même si on ne sait pas que ce sont des idées suicidaires. Il y a beaucoup de choses. Il y a pertes affectives, une famille éclatée, de l'exclusion, de l'intimidation à l'école, même la question de la quête identitaire aussi, qui est extrêmement importante et qui commence très tôt, qui commence au primaire, qui commence quand on est jeune. Ça peut se transformer en trouble émotionnel.
Oui. Bon, en fait, les émotions, c'est beaucoup ce qui est au centre de toutes ces problématiques-là. Puis on dirait qu'on a de la difficulté à gérer nos émotions. En tant qu'adulte, on a de la difficulté. Imaginez-vous quand on a 5-6 ans. Puis cette fameuse quête identitaire-là, là, moi, je ne suis pas ni psychologue ni pédopsychiatre. Ça commence petit. Pensez à un enfant de 5 ans qui veut tellement plaire à sa mère ou à son père. On est tous passés par là. On passe tous par là. À un moment donné, on a besoin de leur plaire, de faire partie de ce noyau-là. À un moment donné, on a besoin de s'en dissocier. L'adolescence, ce qui me fait mourir de rire toujours, c'est qu'on veut être unique, mais en même temps, on s'habille ou on s'organise pour être tous pareils. Alors, toutes ces contradictions-là ne sont pas vécues de la même manière par les enfants. Il y en a certains qui sont plus fragiles que d'autres. Tu sais, la perception qu'on a d'une chose, par exemple, ta mère peut te dire quelque chose, toi tu vas le prendre bien, l'enfant d'à côté, même âge, même famille, le frère ou la sœur va le prendre d'une manière difficile. Alors c'est tout ça qu'il faut essayer de comprendre et de voir. Et on parle beaucoup d'intimidation, on parle beaucoup de réseaux sociaux. Il y a beaucoup, beaucoup de suicides ou de tentatives de suicide qui sont souvent liées aux médias sociaux parce que c'est dans ce contexte-là qu'on vit maintenant.
Et c'est un nouveau phénomène aussi parce que ça fait pas très longtemps, mais il y en a même qui les mettent en ligne, qui qui mettent leur détresse oui. en ligne.
Et c'est
avant.
Pour ça qu'on développe des outils maintenant pour essayer de remarquer cette détresse-là sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, je pense qu'on souffre tous, la société souffre d'un manque de la maladie du lien. On n'a plus de véritables liens les uns avec les autres. Et quand on parle de facteurs de protection, et ça, c'est très intéressant, ça a été développé à l'hôpital Rivière-des-Prairies par les spécialistes là-bas. En fait, il y a les facteurs de risque, mais en même temps, les facteurs de protection, ça permet aux spécialistes de travailler sur le cœur du problème et, en fait, ça résout... Ça permet aux enfants de guérir plus rapidement. Et juste pour vous donner une idée, par exemple, facteur de risque, on se dit, est-ce qu'on essaie de bâtir la vie intérieure de ces enfants-là? C'est quand même assez particulier de parler de ça pour un jeune enfant de 8, 9, 10 ans. Mais bon, cet enfant-là n'a pas de but dans la vie ou... C'est petit, mais on peut développer cette conversation-là avec ses enfants. C'est ça qui est tellement insaisissable, la Moses de maladie mentale, c'est que... C'est abstrait et les solutions qu'on trouve nous semblent tellement anodines quand on en parle comme ça. Mais tout à coup, si on se mettait à essayer d'améliorer les liens qu'on a les uns avec les autres, avec nos enfants et entre nous tous, et si on se mettait à peut-être renouer certains liens, ça nous permettrait... En fait, de nous accrocher à quelque chose, d'avoir des raisons de vivre qui sont peut-être plus concrètes que ce qu'on peut imaginer, c'en est une, ça, ou développer des manières, on dit coping en anglais. Des manières de réagir ou de faire face à l'adversité. Quand t'as 5 ans, 10 ans, 12 ans, t'en as des obstacles à franchir. C'est pas les mêmes que les adultes, mais t'en as. Et si t'apprends, et ça, je pense que la beauté de la chose, les facteurs de protection, là, vous irez sur le site de la Fondation, je vais mettre un texte qui les décrit un petit peu. Je vais vous mettre aussi une bibliographie qui donne référence à des livres où vous pouvez aller plonger là-dedans. En fait, c'est de recréer... de réinventer la conversation.
Exactement.
Tout simplement, de parler, tu sais, parce qu'on a l'impression sur les réseaux sociaux qu'on est en contact avec la planète. On est en contact avec la planète, mais est-on en relation? Et dès qu'on a quelque chose qui nous accroche à un autre, on a beaucoup plus de facilité à vivre le quotidien, même quand il est difficile. Et peut-être que les idées qui nous passent par la tête vont s'effacer lentement, mais sûrement. Tu vois, pour le petit Marc-Antoine, qui a eu ces idées-là de l'âge de 9 ans jusque vers la douzaine d'années, il me dit que ces idées-là sont disparues de son esprit le jour où il a eu les mots pour les dire. Alors, à 9 ans, t'as peut-être pas les mots exacts, mais si on travaille sur la conversation, et pas juste la conversation en réseau, mais la conversation face à face, moi, je pense juste, puis je m'inclus dans l'eau, je vis à la maison avec mon fils est sur son ordinateur, je fais mes affaires de mon côté. Dans le fond, on pourrait vivre dans deux maisons différentes à des kilomètres de distance, puis on aurait peut-être pas beaucoup plus d'occasions de se parler. Alors, je pense que la solution du problème... Elle vient de là, tout simplement. Et c'est pas de se sentir coupable de pas faire les choses correctement, mais c'est de travailler sur les choses qui nous sont positives dès le plus jeune âge. En plus, si on a réussi à bien créer, à bien développer la communication avec nos enfants, ben l'adolescence va être moins difficile à traverser.
Justement, cet aspect-là de la conversation, du dialogue, en fait, qui est parfois à créer, d'autres fois à recréer aussi, à réparer, il est parfois sous-estimé. Plusieurs personnes croient à tort que le fait de parler de suicide, le fait de parler de dépression, d'idées suicidaires avec leurs enfants pourrait les inciter à passer à l'acte. L'inverse.
C'est l'inverse. En fait, tout ce que ça contribue à faire quand on n'en parle pas, c'est à alimenter le tabou. Tu sais, on essaie de faire diminuer les chiffres, puis moi, j'aime pas beaucoup parler de chiffres parce que c'est des individus qui posent des gestes, c'est des gens qui sont nés, qui ont respiré, qui ont eu des envies, qui ont vécu des plaisirs, des bonheurs et qui, à un moment donné, ont posé un geste. En fait, en parler, ça démystifie, ça dédramatise et ça fait que les gens avec lesquels on en parle vont peut-être se tourner vers nous lorsque le moment va être venu, ou lorsque ces idées-là vont commencer à habiter ton esprit. Tu sais, dans le fond, la conversation, en fait, aussi, discuter de ça, ce qui va faire la différence, c'est une personne significative. Alors que cette personne significative-là, ça soit un petit ami de 10 ans, que ce soit la mère, le père, que ce soit un cousin, une amie de la famille, rire. Ça, c'est pas grave. C'est de développer un lien qui nous ramène à notre humanité et qui nous fait espérer le meilleur de la vie. Ça, je pense là, qu'on peut tous y arriver, même quand on a des idées, quand on est de nature dépressive. Et ça, je vous dirais que jusqu'à l'âge de 40 ans, ce qui me concerne, j'ai eu des idées suicidaires jusqu'à ce moment-là. Alors, je le sais, c'est quoi. J'ai vécu ça. J'ai vécu la détresse. La détresse n'est jamais très loin, même quand tu as développé d'autres moyens d'affirmer et d'avancer dans la vie. Mais ça se fait. Ça se fait. Et même avec nos petits, ça se fait. Et il faut cultiver cette communication-là.
Pensez-vous qu'on est bien outillé socialement dans notre société, dans nos différentes institutions, comme l'école, par exemple? De ce phénomène-là.
En fait, je pense pas du tout qu'on est bien outillé. C'est clair que l'école te forme pour vivre dans une société de performance, c'est-à-dire que tu vas prendre des cours d'économie, des cours de maths, des cours de français, des cours d'histoire, de géo. Mais quand est-ce qu'on va t'apprendre? Et même les cours d'éthique religieuse, c'est parce que c'est devenu tellement n'importe quoi et ça peut tellement être n'importe quoi et différent d'une école à l'autre. En fait, les relations, on devrait avoir à l'école des cours sur les relations humaines. Comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on établit un lien avec quelqu'un? Comment est-ce qu'on entre en communication avec quelqu'un? Comment est-ce qu'on développe le lien avec quelqu'un? Comment on développe une relation significative avec quelqu'un? Si on enseignait ça dès le primaire, là, parce que je trouve qu'au secondaire, il est déjà trop tard pour commencer ça. Il faut faire ça tout petit. Je suis certaine qu'on créerait des êtres... En fait, qu'on permettrait à des êtres humains de se déployer encore mieux et encore plus.
Bien, c'est quelque chose qui va se passer. On va avoir des outils, entre autres, à cet événement de sensibilisation le 6 mai. Sylvie Lauzon, directrice de la Fondation Les Petits Trésors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.